Europe 1.
La rumeur, elle intrigue, elle interroge, elle inquiète ou elle fascine. Elle est souvent transmise de bouche à oreille et lorsqu'elle est lancée, il est très très difficile de l'arrêter. Pourtant, la rumeur peut toucher chacun d'entre nous et détruire une vie. La rumeur prend source après un mensonge, une vengeance ou encore une erreur et malgré l'intervention de la justice, elle continue parfois encore à courir. Pour y échapper, certaines personnes n'ont alors d'autre choix que de quitter leur terre natale. Comment faire face lorsqu'on est victime de fausses accusations? Comment affronter le regard des autres? Et comment prouver son innocence et rétablir la vérité? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Roland. Accusé à tort de pédophilie et blanchi par la justice, les rumeurs ont malgré tout continué à courir autour de lui. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Bonjour Roland.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Merci hein, de nous consacrer ces quelques jours. Nous allons évoquer votre vie, parce que cette vie, elle a été bousculée pendant 4 ans, on va le voir. Vous avez vécu un véritable cauchemar. Vous avez été victime de rumeurs. Qui était à l'origine de ces rumeurs?
À l'origine de ces rumeurs, c'est mon ex-femme. Elle a porté des accusations contre moi.
Alors de quoi s'agissait-il?
S'agissait d'abus sexuels sur les enfants. Principalement sur une de ses filles.
Alors aujourd'hui, je vous le rappelle, vous avez été acquitté. À aucun moment, vous n'avez été incarcéré. À aucun moment, vous êtes convoqué un an après, on le verra,
Ouais. Et
acquitté au mois de mai. Ce qui traduit que aussi que ces accusations ne reposaient que sur une rumeur, on va le voir, qui s'est amplifiée et qui a fait de vous le pédophile, l'ex-beau-père qui avait touché son ex-belle-fille. La première fois que vous êtes mis au courant des accusations de votre ex-femme, vous dites quoi? Vous ne les prenez pas au sérieux au début? Vous vous dites...
Au départ, oui. Ouais. On ne prend pas ça au sérieux. Et on se dit, ils vont vite se rendre compte que c'est du vent. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on est toujours un peu entre deux feux. Ouais. On ne sait pas quoi penser. Si on doit vraiment se méfier, si on a de quoi s'inquiéter ou pas.
D'accord.
Voilà.
Cette rumeur, elle vous a poursuivi partout. Même jusqu'à votre travail, je crois.
J'ai dû, forcément, parce que vu que... On avait des informations comme quoi on allait venir m'arrêter. Donc j'ai dû en parler à mon employeur. J'ai dû lui dire. J'ai dû aller le trouver en lui disant, écoute, voilà ce qui se passe. Là, les accusations qu'on porte contre moi. Ouais. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Donc si maintenant, je ne sais pas, je vais rentrer du boulot qu'on vient m'arrêter, je ne te tracasse pas si à un certain moment, pendant 2 jours, tu n'as pas de nouvelles de moi.
Oui,
ou je ne sais pas.
Oui.
De manière... Voilà...
Vous viviez dans cette angoisse-là, quand même.
Tout à fait. Oui. Même si on sait qu'on n'a rien fait, avec tout justement les on-dit et les bruits qui couraient, on ne savait pas ce qui allait arriver d'une heure à l'autre.
Avant que l'on rentre chez vous, on aura l'occasion d'ailleurs de rencontrer Sarah, votre compagne d'aujourd'hui. Vous êtes remarié ou pas encore?
Oui, on est marié.
Vous êtes marié avec Sarah?
Oui, on s'est marié.
Ça fait beaucoup de mal, Sarah, hein,
ouais.
Cette histoire. Hein.
Ouais.
On va le voir.
Ouais.
Elle est encore là aujourd'hui. Mais ça n'a tenu qu'un fil qu'elle baisse les bras et qu'elle s'en aille.
Oui.
Enfin, qu'elle s'en aille.
Oui.
Je veux dire qu'elle quitte la vie.
Elle a été récupérée de justesse une paire de fois, oui.
Ouais. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va mieux. Je vais dire, mais on y pense comme toujours, ça nous suit.
Roland est un passionné de moto, et c'est à l'occasion d'un rassemblement qu'en 2006, il fait la connaissance d'une femme de 28 ans, mère de 3 jeunes enfants. Célibataire depuis quelques années, Roland veut croire en cette nouvelle histoire.
Au premier abord, elle est un peu extravagante, quoi. elle rit facilement, elle a une gaieté de vivre, on va dire.
Vous vivez deux années, visiblement, où les choses se passent bien. Et
oui.
Au bout de deux ans, ça va commencer un peu à se gripper.
J'avais l'impression d'avoir été trompé sur son réel caractère. Et à certains moments, ben, je me rends compte quand même que je me suis trompé. Elle hurle pour un oui, pour un non, pas sur moi, mais principalement sur les enfants. Les conflits qu'elle a souvent aussi, que ce soit une fois avec son père, une fois avec son frère, une fois avec sa mère, une fois... Elle est toujours dans un état conflictuel avec tout le monde. Mm-hmm. Puis au fil du temps, je me dis, je vais pas pouvoir continuer comme ça, quoi. C'est pas ça que je veux, quoi.
Votre relation, elle va prendre fin. Dans quelles conditions elle prend fin ?
Elle prend fin parce qu'elle me trompe et qu'elle a décidé de partir avec quelqu'un d'autre.
Le couple se sépare après 7 ans de vie commune. De nouveau seul, Roland trouve une écoute attentive auprès de Sarah, qui est devenue aujourd'hui son épouse. Mais il se trouve que Sarah est à l'époque, et depuis plus de 15 ans, la meilleure amie de son ancienne compagne.
On était tout le temps l'une avec l'autre, tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne se voyait pas, on a élevé nos enfants ensemble, ils ont grandi ensemble. J'ai assisté, enfin j'étais là pour ses accouchements, elle était là pour les miens. Enfin voilà, je suis marraine de sa fille, elle est marraine de mon fils. C'est vraiment, vraiment, vraiment une amitié très, très, très forte. Puis un jour j'ai été chez elle quand même. Elle s'était mise avec un gars qu'avec moi ça passait pas quoi. Donc voilà, et puis c'était plus pareil, on s'était un peu éloigné, on s'était un petit peu... Puis je la sentais... je la sentais bizarre.
Cette relation, en fait, elle naît, donc. Quand elle l'a su pour vous deux, comment a-t-elle réagi ?
Elle m'a dit que de toute façon, elle le savait, qu'elle s'en doutait. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu ressens ? De la haine, qu'elle m'a répondu. Mais j'ai dit, mais enfin, je ne l'ai pas pris. Tu l'avais laissé tomber, je dis... Et puis elle m'a raccroché au nez. Donc...
Est-ce que cela vous a inquiété ?
Je pensais que sa haine passerait avec le temps, qu'il faudrait du temps, mais que ça finirait peut-être par passer, que l'amitié était plus forte.
Pourtant, quelques temps plus tard, Roland est informé par Angélique, une amie commune, que son ex-compagne vient de déposer plainte contre lui.
Je suis à mon travail et je reçois un SMS d'Angélique qui me dit « Elle a déposé une plainte, rappelle-moi s'il te plaît. Voilà. »
Vous savez de quoi parle Angélique ?
Angélique avait déjà évoqué le fait qu'elle ferait quelque chose certainement vis-à-vis des enfants et tout, et puis voilà.
Angélique, vous avez lu le procès verbal, là. Il s'agit d'attouchement, il s'agit de pénétration, il s'agit de pénétration avec son sexe, pénétration avec ses doigts, de fellation, d'éjaculation sur elle. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous lisez ça, en fait ?
Je suis choquée. Je regarde et je dis directement, c'est faux. Je ne te crois pas. Tout est faux là-dedans.
Vous aviez peur pour eux ?
Bah bien sûr.
Ça aurait pu
ça
être pire.
Ça aurait pu être pire.
Qu'entendez-vous par là ?
Ben par rapport à Sarah, à Roland. Ça aurait pu être pire. Vous savez, des gens, il y en a des gens qui se tuent pour moins que ça.
Roland n'a jamais été incarcéré. Mais pendant les 4 ans que dure l'instruction, les accusations portées contre lui atteignent toute la famille et transforment le quotidien du couple en cauchemar.
Je suis rentrée quelquefois en pleurs suite... j'avais été faire des courses avec une personne et puis j'entendais derrière moi, c'est elle, la femme du pédophile. Ou des gens qui me disaient bonjour avant
qui évitait de me croiser ou évitait mon regard ou faisait comme s'il ne m'avait pas vue. Je me sentais toujours mal à l'aise, je me sentais, regardée différemment. Le regard de l'autre avait changé, ça, c'est une certitude. J'étais vraiment pas bien, j'arrivais plus à m'épanouir dans mon travail. D'ailleurs, je me suis arrêtée, je me suis mise en arrêt suite à tout ça, parce que je ne pouvais plus, quoi.
Vous ne pouviez plus sortir, en fait.
Je n'avais plus envie, non.
Vous disiez que même aller faire des courses, c'était quelque chose qui était insurmontable pour vous.
Oui, non, je ne voulais plus sortir, je ne voulais plus aller faire mes courses toute seule.
Toutes les manifestations, je vais dire, style brocante, vide-grenier, toutes ces choses-là qui sont dans tous les villages qu'on connaît, qu'on faisait, on ne les fait plus. Ou alors on les fait, on a vraiment l'impression que tout le monde nous regarde, peu importe où on allait, ça
vous suit.
Ça nous poursuit partout. Et même quand il n'y a personne qu'on connaît, le regard des gens, on a l'impression que vous croisez un regard, ce regard, vous le trouvez accusateur, même si c'est des gens qu'on ne connaît pas.
Vous sombrez dans une dépression
Oui.
Ouais.
Je prenais des médicaments, beaucoup, et pour dormir. Je voulais dormir. Je voulais plus penser, donc je voulais dormir. Une fois, ils m'ont retrouvé. J'étais pas bien après le boulot. J'avais pas mal cogité toute la matinée. Je m'imaginais le pire et je me suis dit c'est bon, j'arrête.
Vous imaginiez le pire, Sarah.
J'imaginais. Que Roland allait se retrouver derrière les barreaux, j'allais me retrouver tout seul, sans la personne que j'aime, que tout ce que j'essayais de construire allait s'effondrer parce que c'était son but et qu'elle ne s'arrêterait pas là. Et j'étais mal, très très mal, et j'arrivais pas à gérer, j'arrivais pas. Et ce jour-là, je ne suis pas rentrée du boulot, j'ai été chercher à boire. Et j'ai pris des médicaments et je me suis retrouvée derrière la chapelle parce que j'allais beaucoup à la chapelle parce que je crois...
Prier ?
Oui, je crois, donc j'allais... Et ils m'ont cherché partout, grosse panique, je comprends.
Vous aviez envie d'en finir, en fait ?
Plusieurs fois, oui. Je vais dire, durant cette période-là, c'était rare les soirs où je ne me disais pas « Allez, je m'endors, mais je me réveille pas demain matin, quoi. »
Vanina est la fille aînée de Sarah. Au moment des faits, l'adolescente vivait chez son père. Très proche de son beau-père Roland, elle n'a jamais cru aux accusations qui pesaient sur lui. Mais au fil des mois, elle a vu la rumeur se répandre et sa mère sombrait peu à peu.
Elle était éteinte. On ne voyait plus notre mère, on voyait une personne malheureuse. Et on était impuissants, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment agir. Et de voir une maman se détruire comme ça, c'est dur.
Ouais.
Donc nous, on essayait de défendre Roland comme on pouvait. Moi, j'étais interrogée aussi à la police et on se demandait si finalement ça allait servir à quelque chose, si ils allaient nous écouter ou si c'était que contre nous.
Puis on a quand même, j'ai décidé, parce que c'est moi qui ai poussé pour qu'on déménage. Je dis non, je veux plus rester là-bas, je veux plus. Donc on est venu habiter en France pour essayer de s'éloigner un maximum de la Belgique et de Virton et des cancans et protéger mes enfants.
C'était compliqué pour vous, cette décision ?
Mais au début, on pense beaucoup à soi. On se dit, mais pourquoi elle me fait ça ? Pourquoi elle part si loin ? Moi, je la verrai plus. Et puis, à force de se dire moi, mais non, elle, si elle va si loin, eux, s'ils vont si loin, c'est pour être mieux.
Quand on est ado, comme vous l'étiez, qu'on est touché par la rumeur, comme ça, est-ce que cela a fait de vous une jeune femme différente ?
Nous, on se dit qu'on en sort plus fort. Parce que pour nous, on a gagné, on n'a pas perdu. S'il est encore là, c'est qu'on a gagné. Et ça nous a aidé à avancer. Et on se dit, maintenant, on en est là. On essaie de se reconstruire. On essaie de reconstruire quelque chose qu'on n'a pas eu le droit de construire pendant 4 ans. Et là la vie, elle peut reprendre là où on l'avait laissé. Quoi. Et on a le droit d'être heureux maintenant avec tout ce qu'on a vécu.
En mai 2018, après 4 ans d'attente, Roland est jugé pour viol avec violence aggravée devant le tribunal correctionnel d'Arlon, en Belgique. Comment est-ce que vous abordez ce procès ? Est-ce que vous avez peur ?
Non. Non, je pense pas vraiment avoir peur. Je suis plutôt serein parce que tout prouvait que j'avais rien fait.
Et vous, Sarah ?
J'étais pas bien, j'avais des palpitations. Et ils ont commencé, le procureur a commencé à parler. Quand le procureur a commencé à parler, je me suis dit, je crois que mon mari a deux avocats.
Mais le procureur a démonté toute l'accusation, alors que son rôle, c'est l'inverse. Et il a terminé par dire, il n'y a rien dans ce dossier qui accuse monsieur, au contraire. Il dit, on voit très bien que c'est une cabale. Il dit, depuis que je suis procureur, c'est la première fois que je vais laisser statuer le tribunal et que je peux rien faire, je peux rien demander. Non, pour moi, ce dossier est vide, il n'y a rien.
Le tribunal a statué assez rapidement, puisqu'il vous a acquitté.
Là, j'ai fondu. Ah ouais.
Quatre
ça
faisait
trop du bien.
Ouais. Mais j'étais pas là, moi, je
Mais là, c'était...
C'était je travaillais, moi. J'étais pas là, il m'a téléphoné.
Ouais.
Décision à laquelle votre accusatrice ne fera pas appel.
Non. En même temps, c'est elle qui a été condamnée à payer tous les frais de justice.
Vous avez livré dans la presse belge votre histoire, tout ce que vous aviez traversé.
C'était plus pour que ça serve d'exemple et en même temps pour faire taire toutes les mauvaises langues, faire taire toutes les rumeurs. Et dire, bon ben voilà, maintenant vous m'avez traité de pédophile, vous avez changé de trottoir en me croisant, ben voilà, maintenant vous pouvez changer de trottoir parce que c'est moi qui veux plus vous parler, quoi. Et oui, c'était pour se laver de tout et prouver que des fois... Il ne faut pas prendre toujours les accusations pour des faits réels.
On a tous eu ce réflexe-là. Avant que ça nous arrive à nous, si j'entendais une histoire comme ça, directement, ben, l'homme était en tort. Je ne cherchais pas à comprendre. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est l'être humain qui est comme ça. Donc, moi, à la rigueur, j'en veux pas aux gens d'avoir douté les personnes qui ne le connaissaient pas, je précise. Mais je ne leur en veux pas. C'est normal de se poser des questions, de se dire, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, c'est normal. Mais maintenant qu'il a été blanchi, je pense que ce serait correct vis-à-vis de lui de lui dire, ben, on s'est trompé, quoi. On s'est trompé, on est désolé, et voilà. Et je pense qu'il a le cœur assez grand que pour pardonner.
Est-ce que vous avez le cœur assez grand ?
Je pense pour beaucoup de personnes, oui. Pour d'autres, non.
Ce sont 4 années quand même où j'ai entendu beaucoup de souffrance. Chez vous comme chez Sarah. Est-ce que c'est ce sentiment que l'on vous a empoisonné tout à coup votre vie pendant 4 ans.
Oui, on nous a volé 4 années de notre vie. Ça nous a prouvé quand même que notre amour est fort. Donc, je vais dire d'un côté, ça a failli nous détruire, le fait qu'on s'aime. Et ben, au final, c'est ce qui nous sauve.
Roland m'a donné le sentiment d'un homme épuisé par la souffrance. Une accusation aussi grave laisse des séquelles profondes et j'espère qu'en démarrant une nouvelle vie dans une autre région, le temps et la distance permettront au couple de se reconstruire et de tourner définitivement la page de cette histoire. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.